Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va vous donner dans ce journal les toutes dernières infos sur ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, avec des tirs de missiles iraniens encore cette nuit et des dizaines de bombardements américains et israéliens. Nous serons en direct du Liban, où les journalistes de RMC ont encore entendu des détonations ce matin. Une conséquence mondiale, c'est le pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. L'Iran dit en avoir le contrôle total ce matin. Et puis vous verrez que la campagne des municipales repart de plus belle. Elle était quelque peu sur pause. Eh bien, il y a cette charge du PS, le PS qui charge la France insoumise.
Il y a donc toujours ce matin ces images impressionnantes de missiles et de panaches de fumée au Moyen-Orient.
On est au cinquième jour de cette guerre. L'Iran dit avoir tiré plus de 40 missiles cette nuit sur des cibles américaines et israéliennes. Les États-Unis affirment de leur côté avoir mené près de 2000 frappes depuis samedi. Et Israël en a encore mené des dizaines cette nuit en Iran, visant des centres de commandement. Et au Liban, où se trouvent les deux journalistes envoyés spéciales de RMC, Marion Gauthier et Inès Zegloul. Inès, vous êtes en direct ce matin pour RMC depuis Beyrouth. Il y a quelques minutes encore, la capitale était visée.
Oui, deux déflagrations impressionnantes hein, il y a quelques minutes. Ça a fait bouger les fenêtres. Une première à 6 km de là où nous nous trouvons, dans un quartier résidentiel de la banlieue sud de la capitale. D'abord à Aretrek, un bâtiment touché proche d'une école. Puis une autre frappe à Adat, cette fois-ci il y a un quart d'heure à peine. De nouvelles frappes aériennes israéliennes. Et cette épaisse fumée noire qui s'échappe, hein, qui flotte sur la capitale, visible à des kilomètres à la ronde. Pas de bilan établi pour l'heure ce matin. L'armée israélienne en joie désormais les habitants de Lailaki, à deux pas de l'aéroport international, à évacuer le plus vite possible. On continue d'entendre ça et là dans les environs. Certains habitants tirés en l'air, signal, nous a-t-on expliqué ici, pour que les résidents fuient la zone rapidement, ce qui laisse craindre de nouveaux bombardements à venir. À noter qu'on entend aussi les avions de chasse au-dessus de nos têtes dans le ciel de Beyrouth. Des attaques donc qui continuent, des attaques meurtrières qui ont déjà fait au moins 11 morts cette nuit à Beyrouth.
Inès Zegloul, en direct du Liban, envoyé spécial avec Marion Gauthier pour RMC. La télé iranienne annonce là, il y a quelques minutes, qu'il y aura ce soir en Iran, le début des funérailles nationales pour l'ex-guide suprême Ali Khamenei, qui a été abattu samedi dès les premières heures du conflit. Funérailles qui vont durer 3 jours. Israël dit déjà ce matin que son successeur sera une cible destinée à être éliminée. Voilà ce que disent les Israéliens. Parmi les faits marquants ce matin, il y a aussi l'Iran donc qui revendique la prise de contrôle total du détroit d'Ormuz, dont on parle énormément en ce moment. Romain Houk pour RMC, c'est le fameux bras de mer qui remonte jusqu'à l'Iran et la plupart des pays du Golfe, et c'est un point de passage clé du commerce mondial.
Oui, c'est par le détroit d'Ormuz que transite 1/5 du gaz naturel et du pétrole mondial. Le blocage de ce point de passage a des conséquences déjà très concrètes sur le prix du baril de pétrole, dépassant les $80 du jamais vu depuis 2024 avec la guerre en Ukraine. Le prix du gaz européen flambe lui aussi. Tout cela met sous pression les cours boursiers du monde entier, en particulier les marchés asiatiques très dépendants des hydrocarbures produits dans la région. L'Iran menace de s'attaquer à chaque pétrolier, chaque navire qui oserait malgré tout franchir le détroit d'Ormuz. En réponse, Donald Trump assure que les États-Unis garantiront la libre circulation de l'énergie dans le monde. Pour ce faire, la marine américaine pourrait escorter des pétroliers dès que possible. Emmanuel Macron, de son côté, a assuré hier soir qu'il cherchait à construire une coalition pour permettre de sécuriser les voies maritimes essentielles, dont le canal de Suez et le détroit d'Ormuz. C'est en partie pour cette raison que le porte-avions Charles de Gaulle a été dérouté vers la Méditerranée.
Alors où est-il ce porte-avions ce matin? On sait que jusque-là il était en mer Baltique. Il doit arriver d'ici une semaine en Méditerranée. Depuis hier soir, le Languedoc, une frégate militaire, est positionnée avec des moyens de défense au large de Chypre, pays, l'Union européenne, où une base britannique a été visée avant-hier. Ce matin, c'est le soulagement. Le soulagement pour les premiers Français officiellement rapatriés par un vol affrété par Air France, qui est arrivé vers 3h du matin cette nuit à l'aéroport de Roissy en provenance d'Oman. Il avait décollé dans la soirée avec à bord une centaine de personnes dites vulnérables, comme Victoire, étudiante à Dubaï. Elle raconte son périple. Écoutez Amine Lafchin, la journaliste de RMC qui les attendait à leur arrivée.
On a fait un long, long périple. On a changé au moins 3 fois de car jusqu'à Oman. Ensuite, on a pris un avion. On a fait une escale au Caire. Et ensuite, on a fait Caire-Paris. Donc, ça a été très, très émouvant parce qu'on était tous stressés de savoir si on allait arriver à destination. Et là-bas, enfin, ça y est, retrouver la famille, etc. C'est tellement rassurant. Ça a été très, très dur et émouvant. Mais Enfin, c'est fini. Je croise vraiment les doigts pour qu'ils prennent les devants et qu'ils ramènent vraiment toutes les personnes ici parce que bah, on n'est plus en sécurité à Dubaï.
Et un autre avion de rapatriement en provenance du Moyen-Orient doit arriver dans la matinée à Paris.
Et ne manquez pas, à 8h30, mon invité, ce sera Maud Bréjon. Elle est à la fois porte-parole du gouvernement, toutes ces questions bien sûr sur le rapatriement et sur l'engagement militaire de la France, mais elle est aussi désormais en charge de l'énergie. Je l'interrogerai bien sûr sur les conséquences sur les prix, prix du pétrole, prix du gaz, prix à la pompe, et même sur les conséquences sur le commerce mondial.
En combien de temps ça va durer et quelles sont les intentions des Américains dans cette guerre? Il y a le flou qui continue au point que Donald Trump et son secrétaire d'État Marco Rubio se sont contredits ces dernières heures. Rubio disait que les États-Unis avaient été incités par Israël pour se lancer dans la guerre. Trump l'a contredit en expliquant que c'était lui qui avait, je cite, peut-être forcé la main d'Israël. La campagne des municipales, on en reparle ce matin parce qu'elle avait quelque peu fait pause ces derniers jours, mais elle est repartie de plus belle. On est à 11 jours du premier tour et Cyprien Pézeril du service politique à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. Il y a cette charge donc du Parti Socialiste qui se réunissait hier soir à Paris contre la France Insoumise. Les socialistes demandent aux militants insoumis de se désolidariser des récents propos de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, parce que justement le Parti Socialiste dénonce des propos antisémites de Jean-Luc Mélenchon et fixe un principe, pas d'accord national avec la France Insoumise, plus question de se rapprocher de son ancien partenaire, les deux états-majors ne se parlent plus et les ponts sont rompus. On est obligé d'y aller fort pour ne pas être éclaboussé par les polémiques de LFI, justifie un dirigeant socialiste, mais en réalité, il faut lire entre les lignes, et c'est là l'essentiel, le PS ne ferme pas la porte à des accords locaux, des accords ville par ville. D'abord, les quelques dizaines de listes communes entre insoumis et socialistes dès le premier tour ne sont pas remises en cause, comme le révélait RMC la semaine dernière. Chartres, Draguignan, Niort, il y aura bien les deux logos PS et LFI sur les mêmes affiches. Ensuite, pour les seconds tours, là encore, des accords locaux seront passés, seront d'ailleurs souvent nécessaires pour que la gauche l'emporte. En clair donc, personne n'insulte l'avenir, aucune formulation définitive, sorte de principe de réalité électorale, quitte à donner une impression d'un fait ce que je dis pas ce que je fais, admet un socialiste.
Bon, vous savez que c'est une semaine de Coupe de France en football, il y aura la suite des quarts de finale ce soir, on verra ça sur RMC, Lorient-Nice et Marseille-Toulouse. Marseille, qu'on a fait un objectif de cette compétition, Nicolas Pelletier pour RMC. Et il y a à nouveau de l'espoir depuis la victoire de dimanche à Lyon.
Oui, après la victoire contre Lyon dimanche soir, Habib Bey a exulté de nombreuses minutes devant les supporters marseillais.
Et lorsque vous générez autant d'émotions que ce qu'on a vécu avec notre peuple sur ce match-là et sur les supporters, vous devez absolument vous nourrir de ces émotions-là, l'instant T du moment où vous le vivez.
Conscient des enjeux, le technicien marseillais n'a pas le temps de savourer. Il l'assure, l'euphorie est retombée.
Par contre, on a été capable, une fois qu'on est rentré dans le vestiaire, de se parler et de très très vite redescendre. Lorsque vous êtes dans un club comme celui-ci, vous devez vous nourrir de cette émotion-là. Et il serait hors de question pour nous de ne pas célébrer, de ne pas profiter de ces moments-là.
Et pour le milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia, cette Coupe de France est un objectif prioritaire de la saison.
C'est vrai que les derniers résultats sur cette compétition n'ont pas été à la hauteur du club. Et puis tout donner pour essayer de remporter cette compétition. Donc oui, on la prend de manière naturelle en assumant les responsabilités et en sachant que dans le football, tout peut arriver.
Distancé en championnat, la Coupe de France représente l'un des derniers espoirs pour l'OM de mettre fin à la disette de 14 ans sans titre.
Hier soir, c'est Strasbourg qui s'est qualifié en demi-finale pour la première fois depuis 25 ans en gagnant 2-1 contre Reims avec deux pénalties marquées dans les 10 dernières minutes.
C'était le journal de Quentin Vinet.